c'est très variable selon les demandes des familles, selon leur situation, mais on voit qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir répondre plus vite aux familles, avoir des réponses plus adéquates, plus ajustées vraiment aux besoins spécifiques de leur enfant. Là, j'ai vu un grand-père qui s'occupait de son petit-fils qui avait 22 ans, des inquiétudes, beaucoup de familles avec des enfants avec de l'autisme, qui ont encore des prises en charge très morcelées, avec des réponses vraiment qui ne sont pas du tout satisfaisantes dans leur globalité. Donc énormément encore de travail pour avoir la bonne réponse, une intervention précoce, avec encore des errances de diagnostic. Donc on a encore du travail pour former justement les médecins sur les premiers signes d'alerte, arrêter de culpabiliser les parents et les mères, arrêter de leur dire on a le temps, non on n'a pas le temps. Il faut qu'on agisse beaucoup plus vite, c'est indéniable. Alors stratégie pour l'autisme, plateforme, c'est ce que nous sommes en train de mettre. Partout, pouvoir intervenir avant que le diagnostic soit posé. Donc c'est la mise en réseau justement des plateformes, c'est la formation avec le guide des premiers signes d'alerte pour pouvoir tout de suite orienter les familles vers une coordination des soins. C'est ce que m'ont dit les mamans, on erre de porte en porte, etc. Donc ça, c'est notre ambition. Les premières plateformes sont en train d'être mises en place. Elles vont se développer toute cette année, l'année prochaine. Le but, c'est de pouvoir enfin avoir une prise en charge précoce sur psychomotricité, ergothérapie et psychologie avec un reste à charge zéro des familles. Parce que jusqu'à présent, ces soins ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Avant même que le dossier à la Maison départementale des personnes handicapées soit posé, on intervient pour éviter les surhandicaps et pour permettre justement cette interaction, cette communication qui puisse être remise en place pour ces enfants. Ça, c'est l'intervention précoce.
Que répond-elle à des parents qui cherchent un kiné, par exemple ?
J'ai travaillé tout ce matin avec les associations gestionnaires. On a fait justement un point d'étape pour montrer qu'il manque beaucoup, beaucoup de services. Ça, c'est indéniable. On est en retard sur le développement des services par rapport aux places en établissement. Un vrai besoin de ces services, d'autant que nous développons l'école inclusive et que dans l'école inclusive, nous voulons cette coopération médico-sociale au sein des écoles. C'est ce que m'ont dit encore les familles. On peut plus aller de porte en porte et aller reprendre nos enfants à l'école, aller faire l'orthophonie à droite, la psychomotricité. Donc c'est vraiment l'objet vraiment de notre ambition avec Jean-Michel Blanquer, le grand service public de l'école inclusive. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas du tout de l'incantatoire, on passe vraiment à l'application. On forme les accompagnants. Plus aucun accompagnant en contrat aidé à la rentrée scolaire. Ils sont tous embauchés en contrat éducation nationale. Donc il n'y aura plus de rupture d'accompagnant en cours d'année scolaire, ce qui était le cas avec les contrats aidés. On met en place la plateforme de formation Cap vers l'école inclusive pour les enseignants sur la pédagogie adaptée selon les troubles. On forme et on gère enfin les emplois du temps des accompagnants au plus près des besoins de l'école avec la mise en place des PIAL, des plateformes d'intervention justement et d'accompagnement localisé. Donc vraiment, on se met en mode action pour réussir cette rentrée scolaire au mieux, au plus près des besoins des enfants. On met en place, et ça va prendre un petit peu plus de temps parce que justement les opérateurs, ce qu'on appelle les associations gestionnaires, doivent pouvoir se coordonner, mettre en place des équipes mobiles d'appui. Et ça a été redit par les familles, ça rend un vrai service. C'est-à-dire qu'on va vers les familles, on ne demande plus aux familles de se déplacer tout le temps, ça c'est très très important.
Il manque des places. A-t-elle des projets de création d'établissements, notamment à Marseille ?
De toute façon, un plan stratégique de création de places, je tiens à le dire encore, hein, dans la stratégie autisme, mais pas que, pour tous les établissements médico-sociaux. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, on a des enfants, des jeunes qui vieillissent dans des établissements médico-sociaux pour enfants. C'est ce qu'on appelle les amendements cretons. Il y en a plus de 300 à Marseille. Il faut qu'on trouve des solutions. Une des solutions sur lesquelles on peut agir beaucoup plus vite, c'est l'habitat inclusif. Trouver des logements inclusifs avec un service d'accompagnement et ne plus penser justement en foyer collectif, en habitat collectif qui sont beaucoup plus longs à monter. Donc là, tout le monde est mobilisé. Ce matin, j'ai vraiment eu une interaction très intéressante avec les associations gestionnaires qui nous ont dit « facilitez-nous la vie ». C'est pour ça que moi, je fais appel à ce que le département des Bouches-du-Rhône se mette en territoire 100% inclusif. J'ai 35 départements qui m'ont fait une proposition de feuille de route. Donc je souhaiterais vraiment que le département et les services de l'Agence régionale de santé puissent proposer, avec les associations justement qui gèrent les établissements, une démarche 100% inclusive pour qu'on puisse travailler justement sur cette fluidité des parcours, cet accompagnement. Il faut qu'on montre aux familles qu'on peut vivre en milieu ordinaire en sécurisant les parcours, notamment sur l'habitat, notamment sur l'insertion professionnelle.
Et les personnes âgées ?
Pareil, les personnes âgées, c'est double peine. Je quitte mon ESAT, je dois quitter mon foyer. C'est plus possible. C'est bien par l'habitat inclusif, c'est bien par le rester chez soi, un chez soi d'abord, qu'on pourra arriver justement à offrir une qualité de vie aux personnes en toute dignité. À qui demande-t-on en même temps d'être partir à la retraite et de quitter son logement ? qu'aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est plus possible. Il faut qu'on travaille en amont à se vivre chez soi. Il faut qu'on travaille avec les mairies, avec les départements, avec les régions pour qu'on améliore vraiment cette offre de logement.
Indique la situation de Marseille par rapport à d'autres villes, puisqu'elle fait un tour de France du handicap.
Je pense que Marseille n'est pas très en avance, mais ça, tout le monde le sait, déjà dans la configuration de la ville, hein, qui est complexe. Mais au-delà de ça, il faut qu'on accélère la problématique des transports. Donc ici, nous avons un tramway. Donc ça, les tramways, toutes les installations nouvelles sont 100% accessibles. Mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on travaille en maintenant l'accessibilité du quotidien. Les grands établissements recevant du public sont accessibles. Mais aujourd'hui, c'est le boulanger, le pharmacien, mon club de sport sur lequel il faut rendre accessible. Il faut qu'on accompagne vraiment les commerçants.
On vient parler du métro marseillais par rapport au métro parisien.
Ah ben le métro, oui, c'est comme le métro parisien. 3% du métro parisien est accessible. Il faut qu'on développe des accessibilités sur les bus à 100%, sur les tramways, voilà. C'est des grands investissements. J'ai discuté avec la présidente du conseil départemental. Elle me dit qu'elle a un grand plan d'investissement pour que 2025, le métro soit accessible. Donc, essayons de l'accélérer pour que 2024, puisque nous avons les Jeux Olympiques et Paralympiques à Marseille sur la voile. Je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un bon levier pour accélérer ça, mais on n'y arrivera pas. Il ne faut pas se leurrer, on n'arrivera pas à rendre le métro accessible à Paris d'ici 2024. Donc moi, ce qui m'importe, c'est la qualité d'usage du service rendu, c'est-à-dire avoir des parcours accessibles à 100%. Peut-être on peut descendre dans le métro, on peut remonter sur des stations qui ne sont pas encore accessibles, prendre le bus, prendre le tramway. Il faut qu'on développe les applications intelligentes pour que les personnes handicapées puissent programmer tout simplement leur déplacement. Voilà, il faut qu'on y arrive.
Précise le financement qu'elle pourrait trouver pour justement accélérer.
Déjà être ambitieux et accompagner, voir s'il y a une possibilité d'accompagner justement par les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec du mécénat aussi privé-public. Voilà, on peut... Avec de l'ambition et une volonté politique commune, on peut arriver à faire des choses. Donc je pense que par le mécénat aussi, on peut interpeller aussi les mécènes pour pouvoir aider aussi la puissance publique et la puissance départementale, les collectivités locales, à travailler tous ensemble au bénéfice des personnes. C'est un enjeu collectif, c'est une responsabilité qui est partagée. Que ce soit l'accès à l'école, que ce soit l'accès à l'entreprise, au logement, tout le monde est concerné, tout le monde doit être mobilisé. Ce n'est pas l'État tout seul qui pourra faire, ce n'est pas les collectivités locales toutes seules. Je pense qu'il faut vraiment qu'on embarque tout le monde vers cette accessibilité universelle pour changer la donne, faire monter le degré d'acceptation de la différence dans la société pour que les personnes handicapées circulent, participent pleinement à une vie sociale au milieu des autres.
À quand une journaliste aveugle, par exemple, à la télé? Parce que le handicap n'est pas visible, on ne le voit jamais ailleurs que dans les maisons spécialisées.
0,7% de représentation dans les médias des personnes en situation de handicap, c'est le dernier baromètre CSA. Donc on est encore très loin du compte. Il faut challenger les médias, vous avez tout à fait raison. Il faut ouvrir aussi les centres et les écoles de formation. Il faut lever l'autocensure des jeunes à aller vers des métiers, des jeunes en situation de handicap, à aller vers des métiers de l'audiovisuel. On a encore des problèmes d'accessibilité sur ces écoles qui sont parfois privées, qui sont parfois non accessibles. C'est tout l'enjeu de ce travail de, je dirais, en même temps de formation et en même temps d'autocensure des jeunes à aller vers ces métiers-là de l'audiovisuel. Mais vous avez raison, c'est un levier pour changer le regard sur le handicap, de voir justement qu'il y a des compétences en situation de handicap. C'est aussi l'objet du DOD, je tiens à le rappeler. Le DOD, c'est notre événement du 16 mai dernier qui a fait travailler des personnes en situation de handicap avec des personnes dites valides dans toutes les entreprises, y compris les médias, puisqu'on a eu justement une journaliste handicapée qui a fait le journal avec la présentatrice. Voilà, c'est comme ça qu'on change l'idée. Ce DOD, c'est 25 000 rencontres, plus de 13 000 duos qui ont été formés. Les ministres ont joué le jeu, la représentation nationale, les entreprises. C'est une façon de s'acculturer aussi à la différence. C'est un tremplin vers l'emploi qui se concrétise derrière par des stages, des CDD. J'ai fait une restitution avec l'ensemble des entreprises. Ça a débouché sur des emplois.